Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Élodie. Elle fait partie de ces personnes pour lesquelles le métier d'infirmier est une reconversion. Dans cet épisode, Élodie vous raconte tout, de son début de carrière en tant qu'auxiliaire de puériculture jusqu'à l'obtention de son deuxième diplôme. Bonne écoute! Bonjour Élodie!
Bonjour Marielle!
Comment vas-tu?
Je vais bien, un peu intimidée, mais tout va bien, et toi?
Moi, je vais très bien, je te remercie. Ne t'inquiète pas, c'est ce que tout le monde dit au début des épisodes. Hein, donc,
Bon, parfait.
c'est quand même intimidant. Pour avoir été aussi reçue sur certains podcasts, je me mets à ta place et à la place de toutes les personnes qui sont passées à mon micro. Je comprends tout à fait que ça soit intimidant, mais ça va bien se passer, ne t'inquiète pas.
Merci.
Alors Élodie, aujourd'hui on va aborder un sujet sur lequel on pose beaucoup de questions, qui est la notion de la reconversion. Ça va être voilà, un peu le thème central de cet épisode. Tu vas nous expliquer voilà, comment tu es passée de ton premier métier à ton deuxième métier, même si les deux sont quand même reliés voilà, dans le domaine de la santé. Mais je trouve que c'est intéressant de parler de cette transition, de ce que tu as pu ressentir, etc. Parce que c'est quelque chose de très courageux et bravo pour ça déjà.
Merci.
Pour commencer cet épisode, je te laisse te présenter, Élodie.
Alors, donc, je m'appelle Élodie, j'ai 32 ans, je suis infirmière donc, depuis 2019, je suis mariée et j'ai un petit garçon qui va avoir 11 mois.
Oh, il est tout petit!
C'est un bébé!
Dis donc, ça veut dire que tu as vraiment mené tout ça, dis donc, de front en peu d'années, quoi.
Oui, 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 tout à fait.
Eh ben, bravo. Alors, on va parler d'abord de ton premier métier, Élodie.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment tu es arrivée voilà, dans ce choix de carrière? Comment ça s'est passé pour toi?
Donc, avant d'être infirmière, donc, j'étais auxiliaire de puériculture. J'ai exercé pendant quasiment 6 ans en tant qu'auxiliaire. Alors, j'ai débuté, j'avais une vingtaine d'années. Et c'est vrai que le métier d'infirmière n'était vraiment pas une évidence pour moi. Je pense qu'il y a 10 ans en arrière, même mes parents n'y croyaient pas, quoi. Ils se disaient, mais devenir infirmière, l'hôpital me paraissait très hostile. J'étais vraiment pas dans ce domaine-là. Je m'orientais plus vers le domaine de la petite enfance et l'enfance. Et c'est vrai que j'ai découvert le métier d'auxiliaire à la suite d'un stage. En fait, si tu veux, j'ai fait un bac SMS. Donc, technologique, à l'époque, ça s'appelait SMS, je ne sais pas aujourd'hui, c'est peut-être ST2S ou...
Je crois que c'est ça, ouais, ST2S. Ouais.
Ça change tellement.
Oui, c'est pas facile de suivre.
Donc, je fais ce bac-là, et c'est vrai que la majorité de mes copines voulaient devenir infirmière, et moi, pas du tout. J'étais plus sur le métier social, ou en tout cas éducatif de cette filière. Je m'orientais plus vers une spécialité un petit peu éducateur de jeunes enfants. Après mon bac, j'ai fait la préparation au concours, tu sais, sociaux, bah, un peu comme voilà, éducateur, orthophoniste, assistante sociale. Et pendant cette préparation au concours, l'école nous demandait de faire un stage de 2 semaines dans une structure d'accueil pour vraiment voir si le métier pouvait nous plaire. Donc moi, je fais un stage en crèche. Là, à 7 ans, enfin, donc en crèche, je travaille des éducateurs de jeunes enfants. Et si tu veux, la directrice de la crèche m'avait dit ça serait bien qu'on fasse le stage un peu en 2 temps. Un temps avec les éducateurs et un temps avec les auxiliaires.
Ah, génial.
Ouais, donc très intéressant. Donc j'avais vraiment un peu, tu vois, un panel un petit peu de tous les acteurs qui pouvaient travailler en crèche. Et donc l'éducatrice qui était au début ce que je m'orientais à faire. Et si tu veux, je pouvais la suivre. Donc là, on était plus sur le côté un peu éducation, réunion pédagogique, mettre en place des activités avec les enfants, les parents. C'était un peu un poste transversal avec la direction, les équipes en section. Donc, très intéressant. Je me dis, ouais, bon, bah, ça a l'air de correspondre à ce que je veux. Et à la fois, voilà, j'allais en section avec les auxiliaires. Et là, je découvre ce métier parce que vraiment, je ne le connaissais vraiment pas. Et là, on me dit, bah oui, moi, je suis auxiliaire. Ah bon, mais ça consiste en quoi? Donc, je me pose des questions sur tout ça. Et après mes journées de stage, je me dis, je vais quand même aller me renseigner un petit peu sur ce métier. Et là, je tombe sur, donc, auxiliaire de puériculture, une formation qui est accessible avec un concours. Et là, tu peux avoir soit un BEP, soit un CAP, pas forcément un bac, pour pouvoir y accéder.
D'accord.
Et c'est une formation qui dure 10 mois. Alors qu'éducateur, on était sur 3 ans comme infirmier. Mmh. Là, je me dis, ah ouais, donc en fait, ça veut dire que si je fais cette formation, que j'ai le concours, je rentre à l'école, 10 mois plus tard, je suis professionnelle, quoi. Mmh. Là, je me dis, oh, ça me tenterait quand même pas mal que de repartir sur 3 ans après le bac.
C'est long, 3 ans, c'est vrai. Hein, ouais. C'est effrayant quand on sort du bac. Ouais, ouais.
C'est pas facile. Et puis, voilà, t'as quand même eu tes années lycée. Et puis, une envie aussi, je pense, de découvrir un peu la vie professionnelle assez rapidement. Donc là, voilà, se pose la question de... qu'est-ce que je fais de ce concours d'éducateur, de jeune enfant, est-ce que je le poursuis ou pas. Finalement, je décide quand même d'aller jusqu'au bout de la prépa concours parce que finalement, ça m'a aussi aidée pour préparer le concours d'auxiliaire, mais je ne passe aucun concours d'éducateur, de jeune enfant. Je me dis que finalement, voilà, 3 ans d'école, peut-être que ce n'était pas assez sur le terrain par rapport à l'auxiliaire, en tout cas auprès des enfants. Donc, je passe le concours d'auxiliaire que j'obtiens. Et donc je rentre à l'école. Et là, ça a été 10 mois de formation où je me suis épanouie. Vraiment, je pense que après le bac, j'avais besoin de ça, où je me suis reconnue, où j'étais à l'aise, où les cours ça se passait très bien.
Ah super.
Voilà, donc très très bien dans mon choix.
Bah donc merci à cette directrice de t'avoir fait découvrir du coup les deux métiers. C'est souvent que ça tient pas à grand chose quoi.
Rien. Ouais. Et je te dis, en plus, j'étais pas du tout. Je connaissais pas du tout le métier d'auxiliaire.
Hein, oui. Et puis, je parle en tant que parent, mais quand on va chercher son enfant à la crèche, on sait que ces deux métiers existent, mais on prend pas souvent le temps de rentrer dans le détail de la vie des personnes voilà, qui s'occupent de nos enfants parce que les choses vont très vite. Et souvent, on fait pas forcément la distinction entre éducateur jeune enfant et puis auxiliaire puériculture, même si on se doute que le métier est différent, même si on se doute que pour qu'il y ait tant de personnes autour de nos enfants, c'est que voilà, ils ont forcément une prise en charge qui est différente. Mais c'est chouette qu'elle t'ait fait faire découvrir ces deux métiers en deux parties quoi, pour que tu comprennes vraiment les enjeux. C'est
vrai, comme tu dis, voilà, le métier d'éducateur de jeunes enfants, on est vraiment plus sur le versant pédagogique, et le métier d'auxiliaire, on est plus sur l'enfant vraiment en section, avec tous les moments dans la journée, le sommeil, les repas, les activités, l'accueil avec les parents, donc vraiment plus de terrain. En tout cas, c'est comme
c'est
ça que
je le
voyais avec mes yeux d'une vingtaine d'années à ce moment-là. Je rentre dans cette école, et alors en plus, ce que j'aimais beaucoup avec cette formation, c'est que c'est vraiment aussi là, tu as le temps théorique et le temps pratique. Et donc, je crois que j'avais fait 6 ou 7 stages, alors qui durent 1 mois. Ouais, donc tu vois, tu as quand même majoritairement des stages.
Ah oui.
Et ça, c'était hyper intéressant parce que tu passes de crèche en pédiatrie, en maternité. Tu vois vraiment tous les domaines d'activité où l'auxiliaire peut travailler. Et c'est hyper varié. Ce qu'on retrouve aussi dans le métier d'infirmière ensuite. Mais voilà, on y reviendra
plus tard. On y reviendra.
Et si tu veux, pour faire le parallèle aussi avec la formation d'aide-soignante, si tu veux, c'est la même chose. C'est le même accès, donc BEP-CAP, avec un concours d'entrée, donc qui est l'écrit plus l'oral quand tu as l'écrit. Et si tu veux, c'est réparti en, je crois qu'il y a 10 modules. Donc, si tu veux, il y a des modules un peu tronc commun avec les deux facettes auxiliaire et aide-soignant, sur l'ergonomie, voilà, tout ce qui va être un peu hygiène. Et après, tu as le versant vraiment plus auxiliaire. Donc là, on est vraiment sur la petite enfance et l'enfance. Et l'aide-soignant, ça sera plus avec le versant adulte, personne âgée.
Exactement.
Voilà. Pour situer un peu, c'est un peu le même métier, mais un peu plus spécialisé dans un ou l'autre domaine. Quoi.
Sur deux populations différentes, voilà. Mais oui, le métier a la même visée, en tout cas.
Voilà, complètement. Donc, je fais cette formation, voilà, où là, je te dis, je me révèle dans toutes les structures. Alors, comme je te dis, le métier d'infirmier et l'hôpital, pour moi, était hyper hostile. Donc, quand on m'a dit, il faudra aller en pédiatrie, je me suis dit, oulala, mais je ne vais pas y arriver, là, je... Comment je vais faire? En plus, en pédiatrie, voilà, tu es avec des enfants qui sont jeunes, qui sont malades. Tu as aussi toute cette partie qui n'est pas si facile. Hein,
Oui, entre l'enfant sain et l'enfant malade, voilà. Oui, c'est déjà un autre public.
Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, voilà, il fallait que je passe par là. Donc, je fais ce stage en pédiatrie. En plus, c'était à Necker. Donc, tu vois, le grand centre pédiatrique. Un peu impressionnée.
Intimidant, ouais, bien sûr.
Je rencontre du coup des infirmiers et infirmières. Mais... Encore une fois, c'était vraiment pas ma priorité à ce moment-là. Je ne voulais pas devenir infirmière. Je voulais devenir auxiliaire. Suite à ces stages, je fais un stage du coup en maternité. Et là, je me dis, ah oui, ça, c'est le service qui me plaît parce qu'on est à la fois voilà, auprès d'une population qui va plutôt bien. Les femmes enceintes qui viennent d'accoucher, c'est quand même assez heureux. Et tous les soins auprès du nouveau-né, là, c'était, je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux faire, parce que tu es vraiment dans le côté aussi éducatif, un petit peu pédagogique, t'accompagnes les mamans, les parents dans leur premier rôle quoi, de parents, de... ils découvrent beaucoup de choses, donc c'était hyper, voilà, c'était vraiment cette structure, enfin ce, comment dire, ce service qui m'attirait. Donc voilà, donc je fais cette formation, j'obtiens du coup le diplôme, et je me souviens la remise du diplôme, une de mes formatrices qui me dit, écoutez Élodie, je pense que vous allez pas vous arrêter là. Vous deviendrez un jour infirmière.
Oh, dis donc.
Voilà. Bon, bah écoutez, c'est très gentil.
Visionnaire.
Mais, mais non, non, vraiment, je ne pense que c'est pas fait pour moi, là.
Ah oui, tu lui dis ça, tu lui dis non, je suis bien comme ça, moi.
Non, vraiment, là, je vous remercie, mais je ne me vois pas infirmière.
Ah, c'est vrai.
Elle me dit, bon, bah écoutez, ok, voilà. Mais je vous le dis, quoi. Très sympa, donc je garde ça, voilà, dans un coin de ma tête, quand même. Et donc, quand j'obtiens le diplôme, c'est vrai que les postes d'auxiliaire en maternité sont quand même assez rares. Il y a beaucoup de demandes et peu de postes. Donc, au début, je commence à travailler en crèche parce que c'est là où il y a le plus de demandes. Et puis, je me suis dit, bon, bah voilà, ça me fait une première expérience. Et je crois qu'au bout de 6 mois, je me dis, non, la crèche, en fait, c'est pas fait pour moi. Je pense que j'avais envie d'autre chose. C'était très intéressant, mais ouais, je me reconnaissais pas vraiment. Ma maman m'indique. Donc, 6 mois plus tard, je lui dis que la crèche, c'est pas vraiment ce que je veux faire, que j'aimerais changer un petit peu, mais je sais pas trop vers quoi tendre. Et là, elle me dit, bah, écoute, j'ai vu qu'il y avait un poste d'auxiliaire à l'hôpital, en maternité, qui était à pourvoir. Parce que ma maman travaillait, et travaille d'ailleurs à l'hôpital, dans un hôpital. Elle me dit, écoute, postule, tu verras bien, de toute façon... Là, je lui dis, non, mais franchement, mais j'aurais jamais ma chance. Enfin, j'ai fait un stage pendant ma formation. Il y a quand même très, très peu de chances que je sois prise. Il me dit, mais tente, on verra bien. Donc, je me vois encore refaire ma lettre de motivation, je crois, la veille de la clôture des candidatures à 18h. Bon, bah alors, vite, je passe ma lettre. Donc, voilà, je me vois la faire, lui faire relire. Elle me dit, mais là, il faut que tu l'envoies, là, c'est demain, la clôture. Bon, ok. Donc, voilà, je l'envoie un peu, mais vraiment pas convaincue du tout que j'aurai le poste à ce moment-là. Et puis, je crois que 3 semaines plus tard, l'hôpital m'appelle, me propose un entretien. Donc, je me dis, bah, ok, super, ça me fait une première, un premier pied, je verrai bien. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de demandes et il y a un seul poste, pas sûr que j'ai le poste. Donc, je rencontre à ce moment-là la cadre de la maternité et la cadre supérieure, qui me font donc cet entretien, et là, qui me dit justement, bah voilà, on a je sais plus combien X candidatures pour un poste. Là, je leur dis, bah écoutez, qui ne tente rien à rien, je me présente à vous, on verra bien, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, et ben, on réessayera plus tard. Hein. Donc, on fait l'entretien, elles me font visiter la maternité, et là, je me dis, oh, quand même,
c'est sympa.
Ouais, franchement, Et puis, on revient dans leur bureau, et puis elles me disent, bon, bah écoutez, quand est-ce que vous êtes disponible? Je me dis, bah donc, ça veut dire que ça va être bon, ou
qu'est-ce qui se passe?
Et donc là, je leur dis, bah écoutez, à la crèche, j'avais un CDI à ce moment-là, donc je leur dis, bah j'ai un préavis, je pense, d'un mois, ou voilà, à partir de là, je peux donner mon préavis, et puis elle me dit, bon, bah très bien, on vous attend, donc si je calcule bien, ça vous ferait arriver au mois de juin. Oui, ça doit être ça.
Mais
moi,
les calculs,
j'avais même pas eu. Ouais, gros coup de cœur. Donc, je leur dis, bon, bah, très bien, je fais les démarches auprès de la crèche et puis bah, les démarches auprès de vous pour être prise à la maternité. Et donc, voilà, finalement, en juin 2012. Quelque chose comme ça, je rentre à la maternité et là, pendant 6 ans, ça a été 6 années d'expérience hyper intéressante à la maternité. Et si tu veux, comme on était dans un pôle mère-enfance qui se fait beaucoup à l'hôpital maintenant, quand il y a des arrêts d'auxiliaires en pédiatrie, souvent, on te demandait de te détacher si t'étais en nombre dans ton service, quoi. Et donc, régulièrement, on m'envoie en pédiatrie, on m'envoie en néonatologie aller dépanner. Et donc là, c'est vrai que je pense que tout commence à la maternité parce que, si tu veux, pendant ma formation d'auxiliaire et ma petite expérience en crèche, le métier d'infirmière était vraiment pas du tout à l'horizon. Vraiment, j'avais vraiment pas cette envie de vouloir évoluer en tant qu'infirmière. Et à la maternité, c'est vrai que je pense qu'après un an et demi d'expérience, où là, je commence vraiment à me sentir bien, et puis mes collègues me disent, mais t'as le profil pour devenir infirmière, je pense que tu peux... Parce que du coup, j'en parlais un petit peu, mais sans vraiment me l'avouer. Je disais, oh, pourquoi pas
Plus
mais
tard.
Bon, ouais, c'est ça, 3 ans d'école, je viens d'en sortir, là, je suis auxiliaire. J'avais vraiment envie de m'ancrer un peu dans ce métier et de m'y sentir bien.
Oui, et puis peut-être de maîtriser quelque chose que, voilà, dont tu avais fini la formation pour de bon. Et ça se comprend. Hein, ouais,
Vraiment,
tu dis, bon, là, c'est confortable, on en reparle plus tard, quoi.
C'est ça, et puis voilà, là, tu vois, donc après 10 mois de formation, donc t'as un salaire.
Oui.
C'est quand même hyper... Enfin, t'évolues aussi dans ta vie personnelle, quoi, à côté de ça. Donc bon, très bien. Et donc, voilà, je vais en pédiatrie, en néonate. Et puis, voilà, j'adore mon métier. Je suis hyper épanouie dans ce que je fais. En plus, en maternité, si tu veux, il y a la suite de... Donc, t'es en suite de couche. Donc là, t'es plutôt auprès des mamans qui viennent d'accoucher. Et les bébés, puisque en tant qu'auxiliaire, t'es quand même plus auprès du bébé, de la maman quand même, mais voilà, auprès des soins du nouveau-né, et en salle de naissance. Et là, en salle de naissance, c'est vrai que t'es quand même plus sur le côté, donc accouchement, césarienne, donc un peu plus le versant médical, si tu veux, où des fois, ça m'arrive d'aller au bloc opératoire, donc là, parce que, par exemple, il y avait une césarienne avec des jumeaux, et donc il fallait que la sage-femme récupère un bébé, et puis l'auxiliaire allait récupérer le deuxième. Donc déjà, je mets aussi un pied dans le bloc opératoire, avec les infirmières anesthésistes, voilà, j'étais vraiment, en fait, je me suis dit, c'est super, parce que ça me permet d'être dans mon métier d'auxiliaire, et en même temps d'être un peu observatrice de ce qui se passe au bloc, sur des, en plus, les blocs, enfin, le bloc opératoire, c'est des services où généralement, tu n'y accèdes pas aussi facilement qu'un service de soins.
Bien sûr.
Donc là, je me rends compte un peu de ah ok, le bloc opératoire, qui y travaille, l'infirmière, elle est infirmière anesthésiste, ok.
Oui.
Je commence un peu à me.
Oui, t'as un sacré panel de métiers que tu découvres par ce biais-là, du coup. Hein.
Donc vraiment, la maternité m'ouvre beaucoup de portes.
C'est vrai.
Et puis voilà, je me mets vraiment à réfléchir à ça en me disant bon, je crois que j'avais 21 ans quand je rentre à la maternité. J'en ai 32 aujourd'hui et je me dis, est-ce que j'ai envie de faire auxiliaire toute ma vie? Pas sûr. Finalement, je m'épanouis beaucoup, ça me plaît bien. Mais en fait, c'est vrai que plus le temps avance, plus je vois par exemple les sages-femmes qui perfusent. Je me disais, oh, mais c'est sympa quand même, comme soin. La prise en charge n'était vraiment pas la même.
Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de gestes que tu réalises en tant qu'auxiliaire, que tu ne peux pas réaliser en tant qu'auxiliaire, que tu vois réaliser, qui t'attirent peut-être un peu plus, peut-être juste pour qu'on se rende compte de... Ou des responsabilités aussi, ou voilà, comment ça se passe?
Effectivement, en tant qu'auxiliaire, donc, tu es sous la responsabilité, donc là, en maternité, de la sage-femme. Et c'est vrai que, par exemple, un bébé que tu trouves pas bien... Tu vas juste alerter en disant, écoute, là, je trouve que ce bébé, cet enfant, respire pas bien. Mais tu t'arrêtes là. T'informes, t'alertes. Et après, c'est la sage-femme qui va effectivement venir voir l'état de l'enfant et peut-être, si nécessaire, appeler le pédiatre derrière. Donc, toi, tu as vraiment, en tant qu'auxiliaire, tout le côté donc soins, confort du nouveau-né. Donc là, avec les premiers bains, l'allaitement, les conseils aux parents. La sage-femme peut le faire, mais ça, souvent, elle a d'autres aussi, un autre rôle à jouer. Donc du coup, voilà, tout ce qui était vraiment soins, ça c'était les auxiliaires. Et si tu veux, voilà, la sage-femme, elle est plus donc les soins, donc pose de perfusion, prise de sang, pose de sonde urinaire, distribution des médicaments, surveillance des césariennes. Donc vraiment tout le côté un peu plus médical que l'auxiliaire n'a pas. Elle est vraiment dans tout ce qui est soins de confort et de bien-être de la maman et du bébé. Et donc, c'est vrai que quand je les vois être auprès des patientes, faire voilà, une prise de sang, poser une perfusion, faire un pansement de césarienne, retirer des agrafes, là, je me dis, ah, oh, quand même, c'est...
Ça me plairait bien.
Il y a pas mal de soins, c'est hyper varié. Je me dis, bon, ok, voilà. Si tu veux, l'idée commence un petit peu à germer dans ma tête, mais sans vraiment être convaincue, je me suis dit, 3 ans d'école, est-ce que je vais être capable de le faire? Enfin... Donc bon, si tu veux, à ce moment-là, voilà, il y a une petite graine, ça commence à germer un peu. Je vais en pédiatrie, là, pareil, je vois les infirmières auprès des enfants qui font aussi, donc, pareil, là, l'auxiliaire, elle est vraiment, si tu veux, dans les soins de confort et elle va accompagner l'infirmière dans les soins un peu compliqués. Quand il faut poser une perfusion à un enfant qui a 3 ans, c'est sûr que toute seule, c'est compliqué. L'enfant, il va probablement pas vouloir. Et donc, toi, tu es là pour un peu divertir l'enfant pendant que l'infirmière, elle fait son soin le plus calmement possible et le plus sereinement. Quoi. C'est
oui, vrai pour l'assister pour les soins un peu délicats. Ah ouais.
Donc, toi, voilà, j'avais vraiment ce côté où tu prends la peluche et tu dis, bah, regarde, ton doudou aussi, on va lui mettre une petite perfusion. Donc, tu es vraiment dans d'autres soins que du soin invasif que l'infirmière pouvait faire. Donc, ça, c'est vrai que le côté infirmière en pédiatrie ne m'attirait pas vraiment. Je me sentais plus dans mon rôle en tant qu'auxiliaire qu'infirmière. Je ne me visualisais pas vraiment en tant qu'infirmière en pédiatrie. Bon, et puis si tu veux, je rencontre mon conjoint, qui est devenu mon mari, en 2013, et je lui en parle. Je lui dis, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, je voudrais devenir infirmière, mais je m'en sens peut-être pas prête. Si tu veux, je mettais plein de barrières. Alors déjà, il y avait les 3 ans d'école qui me faisaient peur. Je me demandais si moi-même, j'allais être capable de pouvoir... voilà, est-ce que j'allais être compétente dans ce rôle? Est-ce que j'allais me plaire dans ce rôle d'infirmière? Est-ce que ça allait me plaire tout simplement? Comme je te l'ai dit auparavant, vraiment, pour moi, c'était infirmier n'était vraiment pas une évidence. Ça n'a pas été une vocation que j'avais depuis toute petite. Enfin, et vraiment plein de questions. Et là, il me dit, mais écoute... fonce, tu verras bien. Déjà, il y a un concours d'entrée, prépare le concours et puis on verra. Lui, il est assez cartésien, il me dit déjà, voilà, étape par étape, quoi.
Oui, exactement, ouais, ouais.
Bon, avant de penser aux mémoires, passe déjà le concours.
Mais c'est sain aussi de se projeter en se disant, non, attends, c'est pas que des études, c'est voilà, un concours, c'est une longue formation, mais c'est bien aussi qu'il t'ait donné ce conseil-là, ouais, ouais, étape par étape. Mais on peut comprendre que t'aies envie aussi de voir un peu plus loin que voilà, juste le concours.
Ouais, parce que c'est quand même assez engageant, on y reviendra peut-être, mais c'est vrai que 3 ans d'école, surtout quand tu as déjà une formation professionnelle et que tu travailles, je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué que quand tu sors du bac. Et encore, tu vois, quand je suis sortie du bac, j'ai même pas fait ce choix de partir sur 3 ans d'école. Donc, c'est pas si facile de s'engager sur trois nouvelles années encore de formation.
Oui, redevenir étudiant. Oui, ouais, non, c'est sûr. Et puis, comme tu parlais, le confort d'avoir un salaire fixe, un job fixe, et puis de repartir dans une incertitude.
Et puis, tu te sens bien dans ton service. Ouais, t'es dans tes petits souliers, quoi. Là, de passer le concours, c'est vraiment rechambouler beaucoup de choses. Bon, donc il me dit, voilà, écoute, passe le concours. Et donc, si tu veux, quand tu es auxiliaire, quand tu as plus de 3 ans d'expérience, tu peux passer un concours qui n'est pas le même que à l'époque, parce que maintenant, avec Parcoursup, c'est plus pareil, mais qui n'est plus le même que pour les bacheliers. C'est vraiment un concours que pour les auxiliaires et les soignants, où là, c'est vraiment plus un concours qui va mettre en lumière un peu ton expérience. C'est des questions vraiment pratiques.
Est-ce que c'est ça qu'on appelle la VAE ?
Alors non.
Non, enfin, c'est encore autre chose.
Ouais, alors je pense que la VAE, validation des acquis, souvent c'est un dossier que tu montes.
Ah oui, d'accord.
Je crois qu'il n'y a pas de concours pour la VAE.
Ah non, c'est vrai, t'as raison. Oui. C'était pour des gens qui avaient une longue carrière, donc voilà. Déjà une branche paramédicale, valorisation des acquis de l'expérience.
Voilà, c'est ça. Où tu peux valider effectivement tes expériences, et je crois que c'est un dossier
c'est vrai.
Que tu dois monter.
Oui. Oui, donc toi, tu aboutis à un concours un peu aménagé, mais et quand même un concours, quoi.
Pour entrer à l'UFSI, donc à l'Institut de formation. Et si tu veux, à ce moment-là, ce qui tombait bien, c'est que ma cadre me dit, écoute, Élodie, il faut que tu choisisses ton plan de formation de l'année. Je me dis,
Ça tombe bien.
Il propose pas une préparation au concours. Et là, elle me dit, très bien. Bah, écoute, voilà, donc je m'inscris à cette préparation au concours. Donc, je crois que j'y allais, c'était sur 2-3 mois. Et j'allais à l'IFSI une fois, je crois, toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça.
D'accord.
Sur une journée où là, on était avec des formateurs de l'IFSI. Donc, du coup, pareil, ça te met aussi un premier pied dans l'institut de formation, quoi. Tu te dis, ok, ça ressemble à ça, tu vois des formateurs. Ça te lance un petit peu, ça te donne une impulsion quand même sur la suite.
Oui, et là tu es à l'hôpital public, donc c'est-à-dire que en quelque sorte tu es au meilleur endroit pour justement envisager ce changement de carrière. Si on peut juste parler rapidement, mais c'est vrai que quand on est par exemple dans le domaine privé, ce sont des choses qui sont plus compliquées.
Oui, alors, et encore, tu vois, moi, mon expérience, si tu veux, à ce moment-là, quand je rentre, enfin, quand je demande la formation, la préparation, pardon, au concours, à ce moment-là, j'étais en stage. En fait, quand t'es fonctionnaire hospitalier, tu as, avant d'être titularisé de ta fonction, tu es en fait mis en stage. Donc ça veut dire pendant un an, il faut que tu sois présent, que tu sois pas absent, ou en tout cas si tu es absent, il y a voilà, il y a un nombre d'absences minimum, etc. Et donc à ce moment-là, moi, à l'hôpital, j'étais mis en stage pour devenir titulaire de ma fonction d'auxiliaire.
D'accord.
Voilà. Et donc, je ne pouvais pas partir. C'est-à-dire que si, par exemple, au bout de 6 mois de ce stage, je disais, bon, bah, je pars, ça voulait dire que je quittais quand même la fonction publique hospitalière. Mmh. Donc, ça avait quand même un engagement derrière. Donc, il fallait quand même que je termine ces 12 mois de stage pour être donc, du coup, titulaire de la fonction publique hospitalière auxiliaire. Et après, voilà, pouvoir peut-être demander par la suite un financement auprès de l'hôpital. Donc, ça, on y reviendra parce que c'est pas si simple que ça. Même si l'hôpital public nous attire en nous disant qu'ils peuvent financer des formations, c'est pas si simple.
C'est pas si facile. Ouais, sur le papier, je pense que c'est ce qu'on te vend, mais c'est vraiment pas le plus simple.
C'est compliqué. Donc bon, en tout cas, ils m'acceptent la préparation au concours. Donc je prépare ce concours, je m'inscris à des écoles, à des IFSI, et j'obtiens. Alors je crois que je m'inscris à 3 écoles j'obtiens. Bah je crois que c'était ça. Et j'obtiens un concours, mais sur l'école que je voulais.
Oh, voilà, fabuleux.
Donc très bien, je ne demandais pas plus. Ce qui était bien, c'est que les 2 concours passés, je crois que j'avais fini par l'école où j'ai obtenu le concours, et ça m'avait permis aussi de me, bah, un petit peu de me roder, quoi, tu vois, sur le concours, de savoir un peu ce qu'il me demandait, etc. Donc voilà, donc j'obtiens ce concours, et là je me dis, bon bah chouette, j'ai le concours d'entrée, maintenant reste la grande partie du financement et de la suite. Donc, quand j'obtiens le concours, j'en informe ma cadre supérieure. Je lui dis que donc j'écris un courrier en indiquant que je souhaiterais pouvoir être financée pour cette formation de 3 ans. Là, elle me reçoit et elle me dit clairement qu'il y avait très peu de chances que je sois financée parce que déjà, il y avait des aides-soignants ou auxiliaires qui avaient obtenu leur concours 2 ans avant moi. Qui avait fait un report d'année et qui, du coup, c'est prioritaire par rapport à mon année d'obtention du concours.
Ah, ils avaient obtenu le concours 2 ans avant et avaient attendu pendant 2 ans qu'un financement se débloque.
Voilà. En fait, je crois que tu peux faire 2 reports d'année maximum. Sinon, ton concours est perdu.
Ah ouais. Super.
Bon, bah, alors là, très bien.
Mon dossier n'est pas en haut de la pile.
Voilà, c'est pas mal. Et en plus, elle me dit, donc, vous savez, quand vous demandez un financement auprès de l'hôpital, ça a des conditions. C'est-à-dire que moi, je leur devais... Donc, l'hôpital te paye 3 ans ta formation. Donc, ça veut dire que pendant ces 3 ans, tu as un salaire, ton salaire de base. Hein, alors, sans les primes, sans les week-ends, etc. Mais tu as quand même un salaire. Et ils payent en parallèle l'IFSI. Donc, elle me dit, bon, bah, quand vous vous engagez dans ce financement, à côté, il faut que vous vous engagez aussi auprès de l'hôpital. C'est-à-dire que je leur devais 5 ans.
D'accord.
5 ans d'exercice en tant qu'infirmière. Et elle me dit, il faut aussi savoir que l'hôpital a le droit de, en tout cas dans l'hôpital où je travaillais, c'était comme ça, hein, de pouvoir vous mettre dans un service où il y a un manque d'infirmières.
Ouais, oui.
Bon. Donc là, elle me dit, voilà. Donc il y a quand même des conditions assez importantes et un engagement. Donc là, elle me dit, bon, bah, il faut savoir qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a besoin d'infirmières en psychiatrie de nuit.
Eh oui.
Waouh. Ok, alors là, je me dis... Alors, donc, je suis jeune diplômée. On va me mettre en psychiatrie. Alors, un service qui est très intéressant, mais qui ne m'attirait pas forcément. Bon. Mm-hmm. Et en plus, de nuit. Là, je me suis dit, waouh, mais alors, qu'est-ce que je vais...
beaucoup d'éléments.
Beaucoup d'éléments. Et puis même, je me disais, en sortie d'école, j'ai peut-être aussi besoin d'avoir un peu de technique. Alors, d'ailleurs, je lui en parle à cet entretien. Et elle me dit, mais vous savez, la technique, ça prend. Le relationnel, ça ne s'apprend pas. Bon. Ok, voilà, donc bon, je me suis dit, ok, de toute façon, si j'obtiens le financement 2 ans plus tard, probablement que je serai en psychiatrie, et probablement que je serai de nuit, etc.
Bon. Oui, c'est vrai qu'en général, on place ces personnes-là qui sont parties pour un engagement avec l'hôpital dans des services réputés difficiles, ou dans des services ou avec des postes difficiles, donc typiquement des postes de nuit, etc.
Complètement.
Et c'est vrai que ça, c'est une réalité, quoi.
Oui, et du coup... Ça te fait aussi réfléchir sur... Alors, attends, je pars sur 3 ans. Donc là, tu vois, t'es un peu dans l'euphorie de... Voilà, ça y est, j'ai passé le concours, je l'ai eu.
C'est les montagnes russes.
Tu demandes le financement. Et là, on te dit que bah, clairement, tu l'auras pas cette année, que peut-être tu l'auras l'année prochaine. Et qu'en plus de ça, t'as 5 ans avec l'hôpital et 5 ans où l'hôpital peut te mettre où il veut, à tout moment, et dans des postes où, voilà, où il manque du monde, ou comme tu dis, dans les postes un peu compliqués. Bon. Donc là, je rentre dans l'entretien, j'en parle avec mon mari. Là, je lui dis waouh, alors là, c'est quand même pas bien engagé, quoi.
C'est la douche froide.
Ouais. Et comme je te l'ai dit auparavant, j'étais moi encore en stage. Donc je pouvais pas rentrer finalement non plus cette année parce qu'il me restait encore, je crois, 6 mois. Je crois que j'avais été mise en stage au mois de 1er janvier. Mmh. La rentrée se faisait en septembre, mais donc du coup, il me fallait encore septembre à janvier pour que je reste. Voilà.
Ouais.
Il me dit bon, bah écoute, tu sais quoi, on va quand même faire ce report d'année. Parce que ça te permettra d'être quand même titulaire et donc du coup fonctionnaire.
Oui.
Et on verra. Bon. Donc je fais ce report d'année. Et si tu veux, pendant cette année-là, ce qui a été bien finalement, c'est qu'au début j'étais un petit peu, je me dis non mais c'est pas possible quoi, je m'investis dans le concours, l'hôpital me paye la prépa concours. Donc tu te dis bon bah quand même, c'est qu'ils ont peut-être besoin d'infirmières. Et en fait là on te dit bah non, en fait ce sera pas possible cette année et peut-être pas l'année qui suit. Donc là je me suis dit mais je me suis pas engagée, j'ai pas passé un concours pour finalement qu'on me dise bah vous pourrez pas rentrer à l'école. Donc si tu veux, cette année avec mon mari, c'est vraiment une année où on se pose des questions. On fait le plan A de ok, je suis financée, je rentre à l'école, l'hôpital me paye ma formation. Qu'est-ce que ça engage derrière? Donc comme je t'ai dit, les 5 ans, donc ça voulait dire pendant 5 ans, on pouvait pas partir déménager si on voulait changer un peu de place. Si je suis pas financée, plan B, comment ça se passe pour que je puisse m'auto-financer? Parce que ça voulait dire pendant 3 ans, donc pas de salaire, et l'école l'IFSI est payant. En fait, quand tu sors du cursus scolaire, donc moins de 25 ans et post-bac, quand tu sors vraiment de ce cursus, tu payes l'école.
Oh là 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 là, j'avais pas pensé à ça.
Et l'école, elle vaut sur 3 ans 22 000 euros.
Oh, oui, oui, oui.
Donc là, tu te dis...
T'es plus sur des frais de scolarité, comme moi j'ai connu après le bac, où c'est quelques centaines d'euros en mettant le matériel, la blouse dedans par an, quoi.
Là, t'es vraiment sur un engagement financier hyper important.
Pas de bourse, rien pour...
Pas de bourse, parce que voilà, en tant que, comme du coup j'allais devenir fonctionnaire hospitalier, en fait, tu n'as aucune aide derrière.
Oui,
c'est-à-dire
oui,
que soit ton employeur te paye la formation, soit on ne te la paye pas, et du coup,
et
bah, tu
restes...
débrouilles. Voilà. Ouais. Donc là, je me dis, waouh, ok, mon mari était vraiment, lui, il s'était dit, non, je pense qu'il ne faut pas que tu te fasses payer la formation parce que c'est trop d'engagement derrière. Le poste qu'ils vont te proposer va peut-être pas te correspondre et en même temps je serai obligée de prendre ce poste parce que le contrat est passé. Donc voilà, pendant cette année on réfléchit beaucoup, ça nous permet aussi de mettre de l'argent de côté à ce moment-là parce qu'on se dit bon, peut-être qu'on va s'orienter quand même vers un autofinancement. En fait, on fait ce choix-là finalement de je m'autofinance. Donc j'en parle à mes parents, ils me disent écoute, c'est comme si tu aurais fait une école d'ingénieur finalement, on va t'aider, on va t'accompagner dans ce choix de toute façon. Voilà, donc, mais tu vois, c'est là où je me rends compte de la chance que j'ai eue parce que je pense qu'il y a beaucoup de professionnels aujourd'hui qui aimeraient faire cette formation et qui ne peuvent pas par manque de financement. Et c'est pas si simple. Donc voilà, du coup, j'emmène tout le monde dans ma barque, mes parents, mon mari. Voilà.
Qui t'es soutenue alors, c'est chouette.
Hyper soutenue.
Ah, trop bien.
Tu vois, voilà, plus de salaire pendant 3 ans, donc c'est vraiment mon mari qui prend toute la relève un petit peu du foyer, mes parents qui m'aident à côté. Donc bon, ça, c'était heureusement qu'ils ont été là. Sinon, je pense que j'aurais pas pu... ou j'aurais probablement peut-être demandé par l'hôpital, mais voilà, en plus, sans vraiment certitude que ça puisse marcher, parce qu'ils envoient 2 ou 3 aides-soignants auxiliaires sur, je sais pas moi, peut-être 50 candidatures. Enfin, tu vois, c'est tellement
sûr.
Dérisoire. Donc, je rentre à l'école en 2016, du coup.
Alors, t'es dans quel état d'esprit, là?
Alors là, écoute, je
impatiente, stressée
Alors, hyper impatiente, hyper stressée, parce que là, je me dis, ok, donc là, je quitte 6 ans d'exercice, je m'engage vers une formation qui est, donc, du coup, pour ma part, payante, et je n'ai pas de salaire pendant 3 ans.
Ah, la pression, quoi.
Voilà, donc là, je me dis, ok, j'ai pas le droit à l'erreur. Clairement, quoi qu'il se passe, et je m'étais toujours dit, quoi qu'il se passe, j'irai au bout de la formation, même si finalement je me rends compte que 6 mois en première année, finalement je me dis ah non, c'est pas fait pour moi, et ben tant pis. Là, l'engagement était trop important pour revenir en arrière. Quand on a fait ce choix, je me suis dit waouh, ok, là j'emmène vraiment tout le monde avec moi et j'ai pas le droit à l'erreur. Et il y avait aussi l'autre côté de me dire ah là là, repartir sur 3 ans d'école avec donc du travail personnel, des stages.
Ouais, c'est travailler en cours, rentrer chez soi, travailler, aller en stage la semaine d'après, rentrer du stage, travailler. C'est lourd, quoi.
C'est lourd.
Ouais.
Et puis, bon, moi, j'étais avec mon mari, on avait notre appartement, j'étais pas chez mes parents. Enfin, voilà, il y avait aussi cette dimension où t'as ta vie quand même aussi personnelle à côté. J'avais pas d'enfant à ce moment-là, mais bon.
Et tu te sens un peu en décalage avec les étudiants de l'école?
Alors,
ou...
Ouais, justement. Là, je rentre dans une promotion où 95% de la formation avait 18-20 ans, quoi.
C'est ça.
Ouais. Moi, j'en ai 26 à l'époque. Ouais.
Oui, t'es pas bien vieille, mais bon, c'est
voilà.
Quand même un autre
contexte.
Même,
ouais. Mais même, tu vois, pour la petite anecdote, en termes d'applications numériques et tout, elles te font découvrir des trucs, t'es là. De quoi
mais
tu parles? Attends, mais fais-moi voir ton truc, là, ça a l'air génial. Donc, à la fois, en fait, c'était... je me suis quand même bien intégrée à cette promo qui était, entre guillemets, plus jeune, parce que j'étais pas si vieille que ça.
Oui.
Et en même temps, ils sont... Enfin, moi, j'aimais beaucoup leur côté...
Stimulant, quoi.
Stimulant, et puis, tu vois, un petit peu dans la fougue de l'âge, quoi, tu vois,
oui,
un peu...
Oui, oui.
Plein d'insouciance quand même à côté de ça, donc j'aimais beaucoup. Et donc voilà, je m'intègre plutôt bien à cette formation. Et en même temps, il y avait aussi d'autres reconversions professionnelles, hein, dans la formation. Il y avait des aides-soignants qui avaient 40, 50 ans. Hein. Il y en avait certaines, elles allaient être à la retraite peut-être dans 10, 15 ans, mais hop, elles ont passé la formation infirmier. Donc là, je me disais...
Chapeau, ouais. Chapeau. Ouais.
Et donc, certaines qui avaient des enfants. Donc là, je me disais, non, bah, alors là, je ne peux pas me plaindre. Moi, je n'ai pas 3 enfants en bas âge ou... Je me souviens d'une où il y avait son fils qui passait le bac, l'autre le brevet. Je me suis dit,
tout le monde à l'école.
Waouh, ouais, complètement. Donc là, je me dis, bon, je peux pas me plaindre, tout va bien. Et donc, si tu veux, ces 3 années se passent avec, bon, des hauts et des bas, parce que c'est vrai que ça a quand même été 3 ans où tu t'investis énormément. Et j'avais cet objectif de réussite où je me disais, il faut que ça se passe bien. Mmh. Donc en stage, je me donnais à 100%.
Tu avais beaucoup de pression sur les épaules.
Je me disais, là, il faut que dans 3 ans, j'ai un salaire, il faut que je trouve un... Voilà, il faut que je sois infirmière. Il n'y a pas, quoi. C'est pas possible.
Mmh. Et tu ressens ta longueur d'avance, en quelque sorte, par rapport aux autres étudiants? Enfin, même si on n'est pas là pour se comparer,
oui,
mais
alors,
tu le ressens quand même?
Oui, parce que tu vois, par exemple, les codes de l'hôpital, je les avais.
Oui.
La manière d'être en stage, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui tombaient un peu des nues de, par exemple, on pouvait leur dire, faut se présenter en stage. Bah oui, mais je me suis déjà présentée à ma tutrice. Oui, mais autour de ta tutrice, il y a aussi d'autres professionnels qui travaillent avec toi.
Eh oui, et puis tu vas en croiser un paquet, ouais, c'est sûr.
Donc tu vois, tout ça, moi, je les avais. Je savais bien que quand t'as une équipe, il faut te présenter, même si c'est la 100e fois dans la journée où tu te présentes, ça fait partie des fondamentaux. Et c'est vrai que, voilà, tout ça, j'avais un peu ces codes de l'hôpital, donc...
Repérer les rôles de chacun, enfin moi, c'est un truc qui m'a marqué.
Quand
t'as 18 ans, tu te dis, il y a un médecin, une infirmière, et puis après, tu te dis, non, mais il y a pas une infirmière, il y en a 10, des aides-soignantes, il y en a 15, des ASH, ce rôle, tu le connais, mais sans le connaître, mais il y en a encore plus. Oui, donc tu pars aussi avec tous les codes. Oui, la cadre, la hiérarchie,
J'avais les codes, j'avais aussi la vision de l'hôpital qui aujourd'hui qui est pas si rose, avec ses avantages et ses inconvénients. Si tu veux, je me faisais pas une idée hyper idéaliste du métier d'infirmière. Je savais à quoi m'attendre. Donc ça, c'est peut-être la seule longueur d'avance que j'avais. Parce que après, pour tout ce qui était préparation de tes cours, des partiels, etc., par exemple, même prendre des cours sur l'ordinateur, quand je regardais à côté, ça tapait 10 fois plus vite sur l'ordinateur.
Oui, et puis eux, ils sont dans cette continuité aussi des études.
Voilà,
le bac, derrière, t'enchaînes, il y a peut-être une année, un raté, quelque chose, il y a
une
réorientation, peu importe.
Oui,
mais...
Mais
ils sont dans une continuité, et c'est vrai qu'on... Tu vois, même pour avoir vécu des formations, moi, quand j'étais infirmière, tu te remets derrière un bureau, tu t'assois sur une chaise, tu te dis, mais ça fait combien d'années que j'ai pas fait ça, quoi. C'est vrai que c'est bizarre.
Puis même, de rester assis pendant 7 heures.
La concentration que ça demande.
Ouais, la concentration, l'investissement. Parce qu'en plus, maintenant, je pense que toi, c'était pas la même formation, mais maintenant, on est en parcours fac.
Oui.
Donc, t'as des cours à la fac, des cours à l'IFSI. Enfin, si tu veux, tout est un peu dispersé. Et puis, c'est plus par pathologie ou par organe. Maintenant, c'est par module.
T'es
à la fois dans les défaillances organiques. En même temps, tu parles du cœur, mais pas vraiment des pathologies du cœur. Enfin, tu vois, il faut essayer de tout rapprocher, tout...
Parce que t'as de la biologie. Il faut faire des liens beaucoup plus vite que nous, je pense, à l'époque.
Et ça, c'est pas si simple. Et moi, je me souviens, quand j'étais auxiliaire et que des fois, on avait des étudiants infirmières qui venaient, on leur disait « faites les liens ». Et moi, j'étais là « mais de quoi ils parlent ?» Et en fait, j'ai compris qu'effectivement, c'est pas simple. Quand tu vois le cœur et qu'en même temps, t'as la pathologie cardiaque à côté, il faut mettre les deux ensemble parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Mais voilà, ça, c'était pas si simple d'être à la fois en cours de fac, les partiels, pareil, tu vois, on était sur des QCM. Au début, je, je connais pas comment ça marche un QCM. Si je loupe une case et que ma question est décalée, là tout est foutu. Enfin, je me disais oh là là. Donc c'était quand même sur l'appréhension des cours, c'était pas si simple de s'y remettre. Après, j'ai eu de la chance, c'est que comme du coup j'ai passé le concours en tant qu'auxiliaire, le premier stage de la première année, j'ai été exemptée. Donc, si tu veux, pendant 5 semaines, je n'ai pas été, comme je n'étais pas financée par l'hôpital, j'ai eu vraiment 5 semaines de pause.
Ok.
Donc, mes copines, enfin collègues, étaient en stage, et si celles qui étaient financées par leur hôpital repartaient pendant 5 semaines dans leur service.
Ah, d'accord.
Moi, ce qui n'était pas le cas. Comme du coup, je m'auto-finançais, j'étais 5 semaines libre. Et vraiment, pendant ces 5 semaines, j'ai remis un peu à plat tout ce qu'on avait vu en début de première année, tous les cours. Et là, ça m'a vraiment aidée à, voilà, par la suite, à vraiment savoir comment faire pour m'organiser, comment tu travailles, comment tu répartis ton temps par rapport aussi aux différents de demandes, quoi. Parce que c'est vrai que tu as une charge de travail d'un coup qui te tombe dessus, tu te dis, mais mon Dieu, par quoi je commence, quoi.
Ouais, il faut une sacrée méthodologie, hein, ouais. Quoi, c'est vrai. Ouais.
Et puis après, voilà, donc après, tu as les premiers stages pour moi qui ont commencé, et là, c'est pareil. Tu as ta fatigue de stage, où des fois, tu travailles en 12 heures, pendant 3 jours. En stage, on te demande aussi du travail, parce que c'est normal, hein, on te demande de faire des recueils de données de patients, de travailler sur les pathologies dans le secteur dans lequel tu es. Et à la fois, voilà, il y a l'école qui te demande des dossiers, t'as tes partiels qui peuvent arriver plus tard, enfin. Donc ça, c'était vraiment arriver à s'organiser, arriver à s'octroyer du temps aussi personnel, parce que moi, j'avais aussi mon mari qui était là et qui se disait, on est en week-end, on va peut-être sortir, bah ouais, mais en fait, moi, il faut qu'à côté, j'ai un dossier à rendre, j'ai un parcelle à préparer, voilà, c'était
toutes
pas...
Toutes les échéances qui arrivent, quoi, ouais,
voilà.
C'est sûr.
Donc voilà, une formation qui se passe quand même très bien, où je me sens bien malgré tout, j'excelle un petit peu dans des domaines, je m'épanouis, et là je me dis, en fait, plus la formation avançait, plus je me disais, ok, ouais, j'ai fait
le bon
choix.
Endroit.
Ouais, j'ai fait le bon choix, les stages se passent bien, je me sens bien. Tu vois, du coup, je découvre les soins que je ne pouvais pas faire en tant qu'auxiliaire.
Ah, génial.
Poser ma première perf, je me souviens avoir écrit un message à mon conjoint dans les toilettes. Oh, j'ai mis ma première perfusion.
Ouais, ouais, c'est émouvant. Oh, ouais. Et la formation se passe sans encombre. Tu passes les différents partiels, t'avances dans les 3 ans.
Ça se passe plutôt bien. J'ai très peu de rattrapages. Je crois que les rattrapages que j'ai eus, c'était les rattrapages avec en groupe. Parce que tu sais, il y a des épreuves aussi en groupe.
Ah, oui, oui, oui.
Donc là, c'est un peu, t'es pas maître de ton partiel. Oui, donc je crois que j'avais eu un rattrapage en groupe, mais voilà, sinon ça se passe très très bien, tout se passe bien, je me sens à ma place en tant qu'étudiante infirmière. Après, ce qui a été le plus difficile, c'est quand j'obtiens le diplôme en 2019 et que je deviens infirmière. Et là, si tu veux, il y a vraiment eu une marche, enfin une montagne même, je pense, à monter, quoi. Parce que j'étais auxiliaire, je passe mon concours, je deviens infirmière. Donc, pendant 3 ans, tu es quand même encadrée par des infirmiers et infirmières. Tu fais des stages, mais tu n'es jamais seule. Mmh. Et là, aujourd'hui, on te dit, bon, voilà, c'est ton service, c'est tes patients. Et puis, c'est parti, quoi.
Ah, il est difficile, ce cap à passer.
Ouais.
Hein.
Et ouais. En plus de ça, si tu veux, quand j'obtiens mon concours, je pars en réanimation. Je ne sais pas pourquoi, je voulais travailler en réanimation. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, je commence ma carrière d'infirmière en réanimation. Et là, c'est vrai que... Alors, pendant 6 semaines, j'ai été donc doublée. Mmh. Et après ces 6 semaines, voilà, là, j'étais seule face à mes deux, trois patients en fonction. Mais même pendant mon doublage, ça a été super compliqué. Là, je crois que j'ai jamais autant pleuré que pendant les 3 années qui étaient passées. J'arrivais au boulot, la boule au ventre, en me disant, mais en fait, là, c'est moi l'infirmière, quoi. Là, je peux pas... J'ai pas le droit à l'erreur, Tu vois, je me suis même posé un moment la question de me dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix ? Et cette question, je ne me l'étais jamais posée pendant la formation.
Ah oui, oui, oui. Et c'est une fois diplômée et une fois en exercice que tu te dis, oui, qu'est-ce que j'ai fait ?
Et je me souviens de me dire, mais en fait, j'aurais dû rester auxiliaire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais pourquoi je me mets là-dedans ? Enfin, vraiment très, très compliqué, émotionnellement, et prendre aussi conscience de la responsabilité que j'avais. Quand t'as le médecin qui vient me voir, qui te dit, bon, là, Elodie, il faut lui faire ça, ça, ça.
Et qui compte sur toi.
Oui,
ouais, ouais.
Qui te demande, et là, comment tu as trouvé le patient ? Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on augmente les traitements ? Est-ce que... Je sais pas, moi, en fait, j'ai pas de recul non plus sur mon pratique. Enfin, Et puis, tu vois, je voyais aussi mes collègues infirmiers en réanimation qui faisaient ça les yeux fermés presque. Je me disais, mais mais moi je suis pas capable finalement. Enfin, tu vois, il y a eu une grosse, grosse remise en question à ce moment-là.
Puis on n'est pas indulgent avec soi à ce moment-là.
Ouais.
On est très dur. Hein.
On est très, très dur. Et même si l'équipe avec qui j'étais était bienveillante, c'était pas non plus si facile de s'intégrer.
D'accord.
Tu vois, ouais. T'arrives dans une équipe de réanimation, on est 50 en tout. Je crois qu'il y avait. Enfin, tu vois, il y avait 20, peut-être une trentaine d'aides-soignants, peut-être 42 infirmiers. Enfin, tu vois, t'es dans une grosse équipe. Et là, il faut trouver sa place, quoi. Et en fait, on te demande de te faire tes preuves aussi à ce moment-là. Ce que j'avais pas vraiment ressenti quand j'étais étudiante. Ouais, vraiment, ouais, ouais. Je faisais mon stage, voilà, on m'accompagnait. Mais là, vraiment, me dire, là, ok, là, il faut que tu fasses tes preuves, quoi.
Faire tes preuves et te faire confiance en même temps.
Ce qui et est me faire
même,
confiance.
Un sacré ouais. défi, hein, quand on est tout jeune diplômé.
Complètement. Et là, et en plus, tu vois, on se dit, bah, enfin, j'avais pas 20 ans, quoi. Celle qui sort du diplôme juste après le bac, je me dis, waouh. Tu vois, j'avais un peu de recul sur la pratique, quoi. Je me disais, c'était vraiment là. Ça a été pour moi un moment très difficile. Et j'ai même eu, comme je te dis, un peu ce regret à un moment de me dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix, quoi. J'ai été au bout de la formation. Donc, je me suis investie en temps, en financièrement. J'ai emmené tout le monde dans ma barque avec ma famille. Et là, j'arrive infirmière. J'obtiens en plus un poste que je voulais. Et là, si tu veux, tout le truc idéal tombe, quoi. Je me dis, waouh, ok, c'est pas si simple. Et pendant, donc je m'accroche en réanimation quand même pendant 6 mois, pardon, pendant 6 mois je m'accroche en réanimation. Et en fait, ça me convenait, en fait, ça me convenait beaucoup. Mais je pense qu'en tant que jeune diplômée, j'avais pas encore toutes les armes pour être aussi alerte de tout ce qui pouvait se passer autour de moi, du patient, parce que c'est vrai que t'es quand même avec des soins qui sont quand même assez particuliers, hein. T'es devant des patients qui sont intubés, ventilés. Il manquait aussi ce côté un peu relationnel du patient conscient, même si tu as la famille, mais c'est pas du tout la même chose. Et en fait, dans le même hôpital où je travaille encore aujourd'hui, je découvre les soins intensifs. Et là, je me suis dit, bon bah ok, c'est là en fait, il faut que j'aille. Parce que t'as à la fois le côté technique et relationnel du patient. Et en plus, c'était là, enfin, en tout cas, dans le service où je travaille aujourd'hui, on est dans une petite équipe, tu vois, on est 12 infirmiers.
Ah oui, c'est nettement plus réduit. Ouais,
voilà, ouais. On est vraiment sur une toute petite. Des soins intensifs qui sont. C'est une petite, un petit service, quoi.
Et c'est le meilleur des deux mondes, alors, pour toi?
Ah ouais, là, ça y est. Je pense que vraiment, je me suis découverte infirmière en soins intensifs.
Comme tu le souhaitais, comme tu le voyais.
Ouais. Comme je le sens, comme je. Et là, ça y est, là, enfin, j'ai vraiment pris possession de mon métier, de toute l'ampleur que ça a, et je me sens actuellement hyper épanouie dans mon service.
Vous ne voyez pas, mais il y a un grand sourire sur le visage d'Élodie, mais vous, elle dit ça.
Même si, tu vois, on travaille de nuit.
Ah, bah ouais, c'est pas simple pour autant. Hein.
Mais
ouais.
Voilà, mais pour autant, c'est vraiment, je pense, le service qui me convient. Et tu vois, aujourd'hui, malgré mon expérience d'auxiliaire, je pense que je ne pourrais pas travailler auprès d'enfants malades.
Et c'est ce que j'allais te demander. Du coup, je pensais que tu allais me dire, vais peut-être un jour repartir du coup d'une façon ou d'une autre vers la pédiatrie, mais non.
Pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que j'ai vraiment été bien dans mon rôle d'auxiliaire. Ça m'a beaucoup nourri, beaucoup appris. Et quand je vois le métier d'infirmière en pédiatrie, c'est quand même pas du tout le même. T'es quand même plus dans des soins invasifs, des soins qui sont pas si simples.
Ah, ça n'a rien à voir, c'est vrai.
Ouais. Et puis alors maintenant qu'en plus j'ai un petit garçon, je pense que c'est difficile de travailler. Enfin, finalement, en tout cas aujourd'hui, ça ne m'attire pas. Mais bon, comme on peut voir dans mon parcours, il y a des choses qui ne m'ont jamais attirée et finalement je deviens infirmière. Tout est possible.
Écoute, peut-être qu'on se retrouve dans 10 ans puis que tu nous raconteras ton expérience en pédiatrie, Élodie.
Écoute, on ne sait jamais.
Non, mais c'est vrai, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais en tout cas, à ce jour, voilà, t'es épanouie.
Je suis dans un service d'adultes.
Voilà, avec des adultes en soins intensifs.
Et je suis épanouie, ouais.
Eh ben dis donc, chapeau, hein, d'avoir réussi à tenir le cap, à malgré les doutes, malgré voilà les émotions que t'as pu ressentir, d'en être arrivé là, tu peux être fière de toi. Hein. T'es fière de toi ?
Merci. Oui, oui. Mais je suis aussi très reconnaissante de la chance que j'ai eue aussi d'avoir des proches qui m'ont accompagnée, parce que vraiment, je pense qu'aujourd'hui, la difficulté pour beaucoup d'entre nous qui vous souhaitent d'être en reconversion, c'est l'accès à la formation, quoi, tout simplement. Et sans eux, j'aurais pas pu réussir, je pense. Enfin, en tout cas, j'aurais peut-être pas fait ce choix de rentrer à l'école. Donc, je pense vraiment à tous mes collègues, j'en ai beaucoup, hein, qui souhaitent devenir, qui sont aides-soignants aujourd'hui et qui souhaitent devenir infirmiers et qui sont heurtés, enfin, qui sont. face à des murs, quoi, parce que la formation, le financement n'est pas possible, quoi, et
oui,
c'est
et puis
compliqué.
entre ce qu'on te laisse penser, enfin, c'est vrai que quand tu rentres un peu plus dans le sujet, tu te rends compte que c'est pas si simple que ce qu'on en dit, quoi. Ouais. Que malgré, comme tu dis, le fait d'être à l'hôpital public, eh ben en fait, on fait pas ce qu'on veut, quoi. Et puis
C'est pas ce qu'on veut.
que vous êtes nombreux probablement à avoir eu cette envie-là, mais qu'il faut se battre, qu'il faut s'accrocher. Ben, en tout cas, tu nous prouves que si on s'accroche et que si on trouve un moyen d'arriver au bout, ben ça peut
C'est
super bien se passer.
complètement. C'est faisable et je pense que tout est réalisable. Maintenant, il faut effectivement trouver les bonnes ficelles au bon moment
Ouais.
dans sa vie pour arriver à... Ouais, à réussir, mais je pense que tout est possible. Je pense que là, quand tu es motivé, quand tu es volontaire et quand tu sais ce que tu veux, ça peut prendre le temps que ça prendra. Tu vois, moi, finalement, j'ai mis 6 ans en tant qu'auxiliaire avant de me dire, OK, c'est vraiment infirmier que je veux faire. Et aujourd'hui, en 2022, voilà, je te dis clairement que c'est ce qui me correspond. Mais il fallait du temps, en fait. J'ai eu un cheminement hyper long avant d'arriver à cette profession,
Et toutes ces années
finalement.
d'avant, elles sont pas perdues, bien au
Et
contraire.
complètement, ouais.
Ouais.
Elles m'ont servi et elles me servent encore aujourd'hui.
Bien sûr.
Même, tu vois, pour comprendre aussi le métier d'aide-soignant, parce que bah, je suis passée aussi un peu par là, je sais ce que c'est. Donc ça, ça te donne une vision globale aussi des soins à l'hôpital. Et du métier d'aide-soignant, bon, moi c'était auxiliaire, mais bon, c'est à peu près similaire, et du métier d'infirmier.
Complètement.
Et ça fédère aussi un peu les équipes, quoi. Enfin, ça, c'est très intéressant.
Ouais, c'est vrai. Oh, eh ben merci beaucoup, Élodie.
Bah de rien, Marielle, merci de
C'est
m'avoir
chouette.
accueillie sur ton podcast et j'espère que, en tout cas, ça pourra donner l'envie à des futurs infirmiers de pouvoir
Ouais.
investir et peut-être aussi de mettre en lumière cette difficulté de financement
Oui.
qui est pas si simple,
Oui.
surtout à l'hôpital public, parce que tu vois, j'aurais été, tu vois, tu en parlais tout à l'heure dans le privé, j'aurais été en CDD et en fait, j'aurais été au chômage derrière, où Pôle emploi aurait pris en charge ma formation. J'aurais eu, tu vois, j'aurais pu avoir une aide par Pôle emploi.
Ah ouais, tu vois, donc c'est pas tout blanc, tout noir, en fait,
Non,
hein.
tu vois,
Ouais.
j'aurais été en CDD, le CDD s'arrête, j'ai mon concours, je suis à Pôle emploi, par exemple, bah voilà, ok, Pôle emploi se finance la formation. Et en
Ah
plus,
mais
te
carrément.
rémunère, enfin, tu as tes indemnités journalières
Carrément.
de chômage, en fait. Donc, tu vois, l'hôpital public,
Eh ouais.
aujourd'hui, il n'est
En bon
pas...
entendeur.
Ouais, voilà, il n'est pas si aidant...
Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais.
Que ça pour la formation, même s'il y a des budgets hein, qui sont alloués, on peut pas non plus dire que ça n'existe pas, mais
Quand
il y a
on creuse un
quelques...
peu, ouais.
Voilà, il y a des budgets et il y a aussi des conditions derrière, comme je te disais, sur l'engagement qu'après toi tu fais auprès de ton hôpital, c'est pas si simple de t'engager pendant 5 ans.
C'est long, 5 ans. Hein. Ouais. Il peut se passer beaucoup de choses. Hein.
Il peut se passer beaucoup de choses et puis souvent, bah, tu n'es pas seule non plus, tu as un conjoint, un mari qui peut-être lui aussi a d'autres envies de professionnelles, d'autres une autre carrière ailleurs
Ouais, une
et...
mutation, on sait pas. Hein. Ouais, carrément, carrément.
Alors, je crois quand même que tu peux essayer de te faire racheter avec un autre hôpital, mais enfin, je ne me suis jamais vraiment renseignée. Il y a peut-être des façons, tu vois, d'arriver à réaccéder à un autre hôpital
Ouais.
public.
Oh, ça doit pas être simple quand même. Hein.
Voilà!
On imagine, vu ce que tu nous as raconté, que ça doit pas être bien
Mais je
facile,
pense que tu
mais.
as encore quelques portes à ouvrir.
Exactement, exactement. On va finir avec le petit portrait chinois, Elodie, pour te poser encore quelques petites questions en plus.
Avec plaisir.
La première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique?
Alors, écoute, j'aimerais beaucoup, tu vois, surtout en soins intensifs, pouvoir avoir la capacité de regarder ton plat et de pouvoir le manger.
Ah oui, des pauses repas de quelques secondes.
Voilà, juste, tu le regardes et hop, c'est bon, tu as mangé ton plat, tu as bu ta bouteille d'eau. Ça serait un truc assez sympa quand tu n'as pas le temps de manger.
C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, tu vois, on ne me l'avait pas encore sorti celle-là, mais j'achète. La question suivante, la phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail.
Écoute, je pense que c'est beaucoup quand même. Bah bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je pense que je démarre souvent comme ça auprès d'un patient.
Question suivante, si tu étais un médicament, lequel serais-tu?
Alors écoute, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que je serais le Calinox. Tu sais, c'est ce gaz hilarant là que tu peux mettre pour des soins. Alors ça, on voit beaucoup ça en pédiatrie d'ailleurs, hein, pour des soins un peu douloureux. Et donc du coup, le patient respire un gaz. Et des fois, c'est vrai que c'est assez. Déjà, d'une, ça soulage la douleur, donc c'est quand même pas rien.
C'est vrai.
Et puis de deux, ça les fait un petit peu mettre sur une petite planète parallèle qui est des fois assez drôle. Quand ils te disent « Oh là, mais je vois des éléphants autour de moi !»« Ah oui, oui, monsieur, bien sûr !»
Tout va bien. Kalinox, voilà. Ce qu'on appelle aussi le méopa.
Et si ou le méopa.
Voilà, le ouais. Mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote. J'espère que je ne dis pas de bêtises.
Oui, mais c'est ça.
Moi, j'étais tellement curieuse que je l'avais essayé sur moi-même parce qu'à force de voir ça sur les patients, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut faire? Et alors, je ne sais pas si je peux retranscrire l'état dans lequel ça met, mais alors moi, ça me met un peu dans l'état, tu sais, juste avant que tu t'endormes et quand tu délires un
d'accord.
peu. Voilà, cet état-là. et ben, du coup, voilà, plus de douleur ou en tout cas nettement atténuée, j'imagine. Moi, j'ai pas eu de soins sous Kalinox, mais c'est un truc où tu planes un peu
oui,
et à la fois, une fois qu'on te l'enlève, tout redevient très rapidement à la normale, quoi.
C'est ça qui est.
C'est un truc assez magique.
Ouais. Qui est bien. C'est une belle invention.
c'est vrai. Question suivante, plutôt thé ou café ?
Écoute, plutôt thé, même si parfois un petit café le matin, quand
refus.
On commence à 7h, voilà. Ça se boit.
Plutôt Crocs ou basket ?
Crocs.
Très bien.
Je suis plutôt team Crocs.
Très bien. Question suivante. Plutôt 10 ans dans le même lieu d'exercice ou 10 lieux d'exercice en un an ?
Bah écoute, je pense que maintenant que j'ai trouvé mon service, ça serait plutôt 10 ans dans un même, dans un même lieu. Ouais.
Oh, c'est chouette. Et la dernière question. Si tu n'avais pas exercé le métier d'infirmière ou d'auxiliaire puéricultrice, vers quelles études ou vers quel métier te serais-tu orientée ?
Alors, tu vois, un truc qui n'a rien à voir avec le domaine médical, je ne sais pas pourquoi, j'aimerais, enfin, si j'avais une possibilité de le faire un jour, ça serait d'ouvrir, tu vois, un espèce de concept store, mais un peu, bon, alors, effectivement, de la déco, de la mode, des livres, etc., mais tu vois aussi avoir un peu un versant où tu fais des cours de cuisine à des patients qui sont diabétiques, tu vois, où tu fais des préparations... à l'accouchement avec une sage-femme, tu vois, avec un endroit un peu cosy,
ouais,
plein de ballons, des couleurs. Voilà, tu vois, être responsable d'un concept store un peu innovant, à la fois, tu vois, avec ton salon thé pour les personnes, entre guillemets, lambda, et puis proposer un peu des soins thérapeutiques. Voilà, je...
Très bien. Mais je crois qu'il y a de plus en plus de lieux comme ça, un peu des lieux de vie comme ça qui ouvrent.
Ouais, c'est ça.
Et je trouve ça génial. Ouais, je trouve ça vraiment bien.
Je sais pas si...
Puis ça rend des choses plus accessibles aussi. Peut-être c'est un peu moins intimidant peut-être que de pousser la porte d'un petit cabinet plus confidentiel, plutôt des lieux comme ça. Ouais. Bah écoute, à garder en tête, on ne sait pas de quoi la vie sera faite.
On ne sait jamais de quoi il est fait, mais ça serait intéressant.
Absolument. Je t'y verrai bien en plus.
C'est gentil.
Et ben, un grand merci, Elodie.
Merci à toi, Marielle, de m'avoir accueillie sur ton podcast.
C'était génial de t'écouter nous raconter tout ça. Et encore bravo, vraiment, pour ton courage, ta ténacité dans tout ça, ta témérité. C'est vraiment, vraiment bien tout ce qui t'arrive maintenant.
Merci à toi. Et puis, ben, voilà, je souhaite en tout cas un bon courage à tous ceux qui souhaitent se reconvertir et je leur envoie tout mon soutien et rien n'est jamais perdu.
Ouais, et un beau message d'espoir, du coup.
Voilà.
De s'y accrocher et d'y croire.
C'est important.
Merci beaucoup, Elodie.
Merci à toi, Marielle.
À bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup à Elodie de s'être confiée sur ce changement de vie. J'applaudis à nouveau son courage et sa détermination à toute épreuve. Elle a accepté de recevoir vos messages privés sur Instagram si une question de réorientation subsiste. Aussi, n'hésitez pas à la contacter pour des conseils supplémentaires. Son pseudo est en description de cet épisode. À très bientôt pour un nouveau portrait.